One Piece Studio.
Bienvenue sur Radio Poche. Radio Poche.
Voilà, Tony, comment tu vas dire?
Salut, bah, très bien, et toi, comment vas-tu?
Oui, bien, on se retrouve ici, le confinement fini, hein?
Oui, bonne nouvelle, heureusement que ça arrive enfin.
On se déconfine?
On se déconfine, oui, tout doucement, enfin, bref, chacun a vécu ça comme il a pu, hein.
Comment toi, t'as vécu, toi, le confinement?
Je t'avoue,
ne bouge pas.
Assez bien.
Raconte-nous comment ça a été?
Disons qu'on avait assez peur. Cette maladie qui était nouvelle, on avait peur de l'avenir, on ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Et au fil des informations, quand on a su qu'on comprenait ce virus et qu'on pourrait un jour sortir du confinement, parce que certains parlaient de 2020, 2022, ensuite 2025, j'ai tout entendu et au contraire. Mais disons que ce déconfinement commence bien, j'espère qu'on n'aura pas une deuxième vague. Et puis ça ne nous ramènera pas nos morts. Il y a eu quand même beaucoup de morts, il faut quand même avoir une pensée pour eux. Dans beaucoup de pays, beaucoup sont morts, notamment ici en Belgique par exemple. 50% de nos morts étaient dans les maisons de retraite, qui est un chiffre immense. Et à ce niveau-là, peut-être qu'on a confiné un peu trop vite, parce qu'on aurait dû prendre des meilleures mesures. En tout cas, disons de mon côté à moi, j'ai quand même eu beaucoup de monde qui sont tombés malades du coronavirus dans ma famille, vu que j'ai une grande famille, mais nous avons à déplorer aucun mort, heureusement. J'ai eu deux neveux qui ont été malades aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Personnel soignant aussi. Le seul truc à dire, c'est que Dieu nous protège. Qu'il n'y ait pas une seconde vague.
Et toi, tu faisais quoi pendant le confinement? Ça se passait comment la journée? Ne bouge pas beaucoup.
Disons que je me suis instruit. Parce que comme ça laissait quand même beaucoup de temps libre. Et surtout les gens avaient beaucoup de temps libre. Les gens qui étaient des postes importants dans cette entreprise se retrouvaient notamment plus dispo pour les autres. Le téléphone a chauffé. Beaucoup d'échanges entre ordinateur et mail, avec des gens qui étaient pas occupés, qui avaient des emplois de temps énormément occupés, qui ont pu nous expliquer les choses, qu'on ne pouvait pas faire tous les jours. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a même des gens, vous savez, je vais dire un truc tout con, d'ailleurs je vais clôturer là-dessus, il y a beaucoup plus de gens qui ont compris l'essence même de leur vie grâce à ce confinement. Parce que c'est un accident de la vie, et pendant un mois, ils n'étaient plus obligés de faire face aux obligations et aux train-train quotidiens. Ce qui leur a fait ouvrir et leur interroger sur leur propre vie. Et j'ai beaucoup d'échos là-dessus. Des choses qui sont vraiment fantastiques, qu'ils n'auraient jamais vu arriver dans une vie.
Par exemple, quoi? Si tu peux partager avec nous?
Par exemple, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont... ils vivent une vie, ils vivent une situation, et ils sont encadrés dedans, emprisonnés dedans. Et ils n'ont jamais posé la question. Ils croyaient vraiment que c'était ce qu'ils voulaient. Mais quand ils ont eu tout ce temps devant eux, et qu'ils ont touché à d'autres choses, certains ont dessiné, certains ont peint, certains ont parti faire du sport, chez eux, mais bon, ils n'avaient jamais fait du sport, et découvert des nouvelles passions, et des nouvelles orientations. Et donc du coup, je pense qu'il y en aura, un avant 2020 et un après 2020.
Avant Covid ou après Donc pour toi, 2020 c'est 2020, Covid.
2020 c'est le Covid et un changement vers une nouvelle civilisation.
Alors Tony, merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer avec les déconfinements qui arrivent? Est-ce qu'il y a une coïncidence, une bonne nouvelle que tu aimerais partager au quartier?
Je vais vous partager une bonne nouvelle. Il fait très beau ces derniers jours et je crois que l'été sera magnifique. J'espère qu'on pourra passer. J'ai pas vraiment de bonnes nouvelles qui me viennent en tête, mais je suis sûr qu'il y a des bonnes choses qui vont encore nous arriver.
Merci Tony.
Je te remercie.
Chouette. Attends, réponds, je te remercie.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci de votre accueil. Et merci aussi pour l'accord agréable. Et voilà.
Tony.
Attends,
Mais comme je te disais, le déconfinement s'est bien passé. Arrêtez de vous foutre de ma gueule.
Je veux monter.
Je me présente, je m'appelle Tony, le collègue Antokic. Merci à vous.
C'est maintenant calme, hein. C'est calme à cause du corona. Alors tout le monde panique, tout le monde reste loin d'avec voisins, reste loin d'amis. Il n'y a pas de visite. Tout le monde a un choc du corona. Alors on dirait qu'il y a un nouvel monde. On dirait qu'il y a une nouvelle amie, on dirait qu'il y a une nouvelle habituation. On dirait qu'on a beaucoup changé. On a beaucoup changé avec la tête, avec la physique, et avec habituation. Et il n'y a pas grande nouvelle des voisins, des quartiers aussi. Il n'y a pas de nouvelles, pourquoi? Et on a eu une période vraiment cauchemar. On a eu une période vraiment cauchemar. On ne sait pas l'avenir.
Et ça se passait comment pour vous pendant toute cette période-là? C'était comment pour vous?
Pour moi?
Oui, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je restais à la maison. Je suis en bonne santé, j'ai été médecin aussi parce qu'il y a du stress. C'est normal, il y a du stress. Alors on a vu que les chocs venir en une fois comme ça. Parce que on n'a pas de nouvelles, même on n'a pas de nouvelles les voisins. Moi je suis solide, je suis habitué.
Ok, est-ce que vous avez une bonne nouvelle à annoncer aux voisins? Une bonne nouvelle?
Une bonne nouvelle aux voisins, parce qu'il y a de bonnes nouvelles aux voisins, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malades aux voisins. Et c'est ça qui est bonne chose pour moi.
Ah, ok. Merci, monsieur.
Bonne journée. Bon courage.
Merci beaucoup.
J'ai sali de tous les radios pour jouer. Bonne journée.
Je regarde ces tasses briller dans le ciel et je me pose beaucoup de questions. Je me demande si dans les années 60, on n'avait pas parcouru, si jamais on n'avait pas envoyé la première mission spatiale, Apollo, et foulé ce sol lunaire, qui était le premier pas de l'humanité en dehors de la Terre. Les Russes l'avaient fait quelques temps avant. Ils avaient envoyé leur premier homme 24 heures dans l'espace. Puis les Américains ont envoyé 6 missions sur la Lune. Je sais que certains le contestent aujourd'hui, on dit que c'est faux. C'est que des balivernes. C'est grâce à ça qu'on a pu envoyer les deux sondes voyageurs qui ont parcouru presque la moitié de notre système solaire, voire plus de 15 milliards de kilomètres. Elles voyagent dans l'espace depuis 30 ans. Elles ont pu approcher la planète Vénus. Mars est foulé par des robots. Au jour d'aujourd'hui, bientôt nous allons retourner sur la Lune. 3 missions sont prévues, notamment nous allons placer évidemment des missiles nucléaires pour protéger la Terre. Ce sera la première base hors Terre, prévue par les Américains en 2028. En 2036, nous allons envoyer un vaisseau spatial vers Mars, la première mission habitée. Évidemment, la pellicule de Mars est un astre fragile et très petit. Il n'arrive pas à retenir sa gravité, donc il n'y a pas de vie possible sur Mars. En tout cas, l'état humain, les bactéries pourront sûrement survivre. Par contre, grâce à tous ces conquérants de l'espace, on a appris beaucoup de choses sur le système solaire. Notamment que Jupiter a plein de lunes, une trentaine de lunes, Callisto, Ganymède. Et certaines lunes ont la taille, voire deux fois la taille de notre planète. On les appelle lunes parce qu'elles dépendent de l'astre Jupiter, mais elles sont aussi grandes que la Terre, voire plus grandes. Certaines sont gelées. Et peut-être que dans une vingtaine de millions d'années, quand le Soleil va gonfler, parce que c'est son but, une étoile naît, et à la moitié de sa vie, elle gonfle, elle devient une géante gazeuse. Ces mondes seront réchauffés, et ce seront peut-être le refuge de l'homme. Qui sait ce qui se passera dans 20 millions d'années? Ça paraît tellement loin. Mais disons que la route de l'espace, c'est cette lune qui est au-dessus de nous qui l'a ouvert. Si l'homme n'avait pas vu cette lune au-dessus de lui, il n'aurait jamais voulu, il n'aurait jamais osé même rêver d'aller dans l'espace. L'inspiration de la Lune est là depuis le début des temps. D'ailleurs, les Romains, même les Grecs avant eux, se demandaient comment ça se fait que cet astre était posé là. Ils la voyaient disparaître le matin, et réapparaître la nuit comme le soleil. Aujourd'hui, on sait qu'en réalité, elles n'ont jamais disparu. Elles ont toujours été là, elles seront toujours immuables dans un mouvement céleste. La Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie et la galaxie tourne autour de l'univers. Tout est en mouvement. À l'heure actuelle, si chaque être humain savait qu'il subissait des mouvements dans tous les côtés, vous voyagez à plus de 2 millions de kilomètres heure dans la galaxie, vous voyagez à plus de 100 000 kilomètres heure vers le Soleil, et vous êtes collé à la Terre. Et tout ça, grâce à la gravité, vous avez l'impression de ne pas bouger. Heureusement, parce que je crois que on aurait eu le tournis. Ben voilà, ça ponctue cette petite minute science. M'a dit Tony Lebrun. Merci, c'est moi qui te remercie.
Merci Tony.
Oncle Quinto, microphone, je suis ici dans les quartiers Pauge. Je suis en face de l'antenne Pauge, l'antenne du contrat de quartier. C'est dans le cadre du contrat de quartier que nous sommes là. Et voilà, Radio Pauge, nous venons rencontrer les habitants, les acteurs culturels, les acteurs socio-économiques, les acteurs dans ces quartiers, hein, dans le cadre de ce grand programme qui débute cette année. Et là, voilà, je suis avec Carly Kanyinda. Bonjour Carly.
Bonjour, Oncle Kinch. Pardon, Oncle
Kinch. Ça commence bien, là. Bonjour, Anne-Valérie. Comment ça va, Anne-Valérie?
Super bien.
En forme?
Mais oui.
C'est vivant ici.
À Pauge, oui, j'apprécie, j'aime bien.
Cool. Et nous sommes avec une habitante du quartier. Elle habite le quartier. Elle est actrice socio-culturelle, économique de ce quartier. Et c'est Géraldine. Bonjour, Géraldine.
Bonjour, Oncle Kinch.
Comment va?
Et ça va bien, c'est beau, c'est magnifique d'être comme ça dans la rue.
On est gâtés aujourd'hui, hein?
On est vraiment gâtés, oui.
Oui.
Alors, moi, je suis un tout petit peu... on a une ASBL qui se trouve au coin de la rue Camille Simons et de l'avenue Voltaire, et qui s'appelle l'ASBL Scarbon. Elle s'appelle comme ça parce que c'est un ancien marchand de charbon qui était là. Et on est à Scarbec. Et c'est bon, donc ça s'appelle Scarbon.
Tu me demandais toujours Scarbon, c'est parce que c'est bon. Carly, tu connais Scarbon?
Mais moi, c'est la première fois que j'entends cette explication-là, en fait. Hein.
Voilà, mais c'était... C'est génial. C'est vrai que...
J'ai loupé quelque chose. Géraldine, vous habitez dans le quartier depuis combien de temps?
J'habite dans le quartier depuis 2005. Ça fait 12 ans.
Ça fait 12 ans.
Scarbon,
et vous aimez c'est Scarbon? C'est Scarbon quand même.
C'est Scarbon, oui. C'est Scar très bon.
Alors Géraldine, qu'est-ce que Scarbon propose dans les quartiers? Moi, j'étais déjà là pour une réunion. J'ai vu que c'est un lieu qui est accueillant, en tout cas. Et c'est tenu par...
Alors, je vais raconter un petit peu d'abord l'histoire. Oui. Mon mari, on aimait beaucoup... On avait déjà un espace que la commune mettait à notre disposition, un espace avec un jardin qui s'appelle l'espace Kessel. C'est les anciens bains de Scarbec, avant le Neptunium, avant la piscine du Neptunium. Mais il y avait les anciens bains de Scarbec. Et puis, dans cet espace-là, on invite tous les habitants du quartier à se rencontrer comme il y a plusieurs, c'est vraiment il y a un jardin aussi, et donc il y a un compost de quartier, il y a un potager, il y a des abeilles maintenant, et toutes les activités qui sont là, on essaye que ça favorise les liens entre les personnes. Par exemple, le compost, on ne le fait, on dit pas aux gens vous pouvez venir quand vous voulez. On tourne nous-mêmes avec une brouette dans le quartier. On envoie des messages aux personnes qui font partie du compost et alors elles mettent le seau devant la porte. Et puis on sonne à la porte, on dit tiens, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cuisiné ça comment? Tu as mangé des asperges? Comment tu les as faites? Ah, ton petit-fils est venu manger avec toi. Et ça crée, on essaye, tout ce qu'on met sur pied, on essaye que ça crée
du lien.
Voilà. Et donc, par exemple, les abeilles, il y a du miel, c'est ensemble qu'on le récolte. Et puis à Noël, on le distribue dans des tout petits pots avec le nom de chacun. Et c'est vraiment c'est un lieu d'inclusion. Oui. C'est vraiment essayer de faire venir des gens qu'on ne voit jamais et faire se rencontrer des personnes qui ne devraient jamais se rencontrer. Et donc, quand on a vécu ça avec mon mari dans notre quartier, un tout petit peu à côté... du quartier Poche, on s'est dit il faut que des lieux comme ça se multiplient. Mmh. Et donc on a trouvé un autre espace. Mmh. Et un soir on se baladait en trottinette et on a vu un lieu avec des grandes vitrines. C'était un immeuble avec des grandes vitrines, et donc il y avait une grande visibilité de la rue vers l'espace. Mmh. Et on s'est dit ici il va se passer quelque chose. Et puis on a réussi à avoir ce lieu.
C'est quelle rue?
C'est le coin rue Camille Simons. C'est le numéro 1 rue Camille Simons et Voltaire.
Donc, je voudrais une précision parce que nous sommes en radio, gens ne voient pas. Oui. La place Pauge, c'est la place qui est juste derrière la maison communale de Scarbeck.
Voilà, Géraldine, tu peux encore
oui,
nous situer.
Oui, la place Pauge, elle est. On va dire que la place Pauge, elle est latéralement par rapport à la maison communale. Et l'espace Carbon, il est juste à l'arrière de la maison communale. Il faut aller derrière la maison communale et là, on a l'espace Carbon.
Et les gens qui ne connaissent, qui ne voient pas, la place Pauge, c'est la petite place qui est juste en bas du dépôt de tram. Qui est ici, qui est un grand bâti dans les quartiers, et c'est juste un petit peu en bas, et vous avez une petite place chouette comme ça, vivante, voilà.
Alors je continue l'histoire. Donc on a trouvé cette maison en passant en trottinette un soir d'été, et puis cette maison, on a réussi à l'avoir, et puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Mais c'était très clair que ça ne devait pas être un café. Mais il fallait pas que ce soit pour une seule communauté, il fallait que ce soit pour la communauté des humains qui habitent le coin. Et donc c'est vraiment ça qu'on a voulu et qu'on cherche à faire. On cherche pas à faire du remplissage dans ce lieu, on cherche vraiment à faire des activités où les gens vont pouvoir se rencontrer. Alors il y a de la gymnastique par exemple pour les plus de 50 ans, ils font de la gym pendant une heure et puis après pendant deux heures ils prennent un petit goûter ensemble. Il y a une chorale de quartier avec l'antenne de... Il y a un centre de santé mentale, donc des gens qui sont moins bien dans leur peau, peut-être, et qui chantent avec d'autres du quartier. C'est des gens qui ne devraient jamais se rencontrer. Et puis, par le fait qu'il y a une chorale et qu'il y a un lieu où ils peuvent le faire, eh bien, ils chantent ensemble.
Anne-Valérie, tu veux rebondir sur...
Oui, moi, je vais poser une question à Géraldine. Est-ce que ce centre, c'est spécialement pour les gens de Scarbeck?
Voilà, mais c'est vraiment ça. C'est quand on a l'envie de rencontrer les autres, on a sa place là.
Ah, OK.
Et c'est un lieu de vie? Vous vivez là aussi ou c'est juste pour les activités?
C'est juste pour les activités. Il y a aussi... on essaye de faire des liens. Donc moi, comme je n'habite pas sur place... On a trouvé dans le quartier des personnes qui sont très moteurs aussi et qui ont la clé du lieu. Et quand il y a, par exemple, ils font un petit cinéma de quartier, ou bien ils font un goûter, ou bien ils fêtent Halloween avec les enfants dans les rues, et puis ils viennent prendre un petit repas ensemble là. Vraiment, c'est vraiment un lieu de rassemblement. Et je dirais aussi d'entraide, parce que les gens découvrent l'envie de s'aider. Ils osent, parce que quand on ne se connaît pas, on n'ose pas demander de l'aide aux autres.
Et comment vous faites? Vous avez des subsides, de gros moyens pour faire ça? Comment vous en sortez?
S'aider, ça ne coûte pas cher. Par contre, c'est vrai qu'on a, on a créé un lieu extrascolaire là aussi, et on a demandé des subsides à la région bruxelloise. Et donc, dans le cadre du contrat de quartier Poche, on a reçu des subsides pour pouvoir engager une personne pour l'école des devoirs.
Ah, chouette, ça.
Et l'école des devoirs, là, on veut vraiment un partenariat avec les parents. On ne veut pas que ce soit seulement nous qui nous engagions. Moi, j'ai 4 enfants. Je pourrais dire, j'ai bien assez à faire chez moi. Mes enfants m'attendent. Mon quartier, qui est à 3 minutes d'ici, m'attend. Mais... Donc si moi je m'engage, je veux que les parents des enfants qui sont là s'engagent avec nous. Ça veut dire que si l'enfant vient suivre, faire ses devoirs et qu'il est aidé pour ses devoirs et pour être mieux dans sa peau, pour avoir un projet de vie, eh bien les parents, il faut qu'ils s'embarquent avec nous. Et donc on demande aux parents, ils demandent aux parents de choisir, de dire, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire un cours de français? Est-ce que vous allez faire un cours de néerlandais? Est-ce que vous allez faire un cours de cuisine? Qu'est-ce que vous allez faire pour sortir de chez vous et pour vous aider à devenir un citoyen plus beau, on va dire, mais un plus chouette citoyen? Voilà.
Carly, je ne sais pas,
oui,
tu veux rebondir.
Je voulais savoir quel est l'accueil réservé à ce projet, à ce concept par les habitants du quartier. Qu'est-ce qu'ils disent de ce projet? Est-ce que ça les intéresse ou ils viennent tout simplement parce que...
En tout cas, par exemple, les enfants viennent spontanément. Depuis qu'on a cette maison, les enfants sont tous dans la rue parce qu'ils se connaissent tous. Ils voudraient que le local soit tout le temps ouvert. Mais il faut pour ça des adultes. Et moi, je me dis... Moi, je n'ai pas envie que le local s'ouvre plus si les parents ne s'investissent pas. Il faut vraiment que les parents sentent que c'est avec eux qu'on va réussir. Moi, comme je dis, avec mes 4 enfants, je pourrais rester chez moi, je suis bien, j'ai bien de quoi m'occuper. Mais si les parents des autres qui mettent leurs enfants là ne viennent pas nous aider, ça va pas. Je peux pas donner plus que les parents eux-mêmes. Donc il faut vraiment un investissement des parents.
Vous avez une sorte de sensibilisation pour faire comprendre, parce que parfois c'est la peur de l'autre.
Oui, mais on les met à l'aise avec ça. C'est vraiment quand il y a une charte qu'on regarde ensemble et on dit ben voilà, voilà comment l'espace fonctionne.
Voilà.
Et une fois qu'ils sentent que c'est quelque chose de formel et où ils sont normaux en faisant ça, eh bien c'est bon.
Voilà, tout à fait. Moi, je voulais poser cette question sur le plan opérationnel. Oui. Comment se passe, comment sont organisées le permanence? Est-ce que tout le monde a la clé?
Il y a quelques personnes dans le quartier qui ont la clé. Et puis c'est vraiment, ça se passe sur base de rencontres. Ce n'est pas des réunions, c'est vraiment des rencontres et des gens qui disent, moi j'aimerais bien faire ça, j'ai tel projet et je m'engage à le faire comme ci ou comme ça. Et alors, on voit ensemble si c'est possible et si ça... C'est vraiment un espace polyvalent, donc il y a quand même beaucoup de choses possibles.
Possible.
Oui.
Anne-Valérie, tu voulais...
Oui, tout simplement parce que ce projet me rappelle un autre projet. Hein. C'était un projet de crèche. Mmh. Et là, les parents devaient vraiment s'investir et s'engager. Et alors, chaque parent devait dire, ben moi, le lundi, je donne 1 heure, je viens, je m'occupe de tous les enfants. L'autre dit, le mardi, moi, c'est 2 heures. Et puis, bon, ça me rappelle un peu ce projet où vraiment... La base du projet, c'était l'investissement, l'engagement des projets, une sorte d'entraide. Parce que c'était des parents qui avaient du mal à trouver des places dans des maisons, dans des crèches, des maisons d'accueil pour les enfants. Mmh. Donc voilà.
Et je crois que l'objectif vraiment, c'est d'élever les enfants. Quand on entend le mot élever, on entend qu'il y a quelque chose qui va vers le haut. Et donc, c'est vraiment ça notre idée, c'est que qu'on les élève, qu'on leur fasse tourner la tête vers plus grand qu'eux, vers une ouverture à autre chose. Si on arrive à ça, on est vraiment content.
Voilà. Donc, Radio Pauge est partenaire. Radio Pauge veut diffuser l'information, relayer l'information, c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous avons des outils qui fonctionnent maintenant sur Internet. Vous savez, envoyer via des formulaires. Si vous voulez diffuser n'importe quoi, si vous pensez que nous, on peut relayer au niveau du quartier, on sait le faire, et même au niveau régional, on sait le faire. Voilà.
Merci beaucoup, oncle Kinch.
Merci Géraldine. Est-ce que vous avez un petit dernier mot? Je pense qu'on a fini
là. Bon, mais je ne sais pas si Géraldine est rapidement, si vous permettez, oncle Kinch,
oui.
C'est que vous avez une idée de ce que pourra être ce quartier plus tard. Quel est votre rêve de ces quartiers?
Mais le rêve, c'est qu'il y ait un vrai mélange entre les personnes, que les personnes qui sont peut-être plus, qui ont peut-être plus de moyens, se rendent compte de l'or que c'est de pouvoir donner. Donner aux autres et que ce soit un vrai échange. Je suis sûre qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui parce que les gens ne se connaissent pas et ne se tournent pas vers l'autre.
Pas de rencontre.
Voilà, il n'y a pas de rencontre et donc il n'y a pas de possibilité de réseau.
Oui.
Et une fois que le réseau est là, tout est possible.
Voilà.
Bienvenue sur Radio Pauge. Radio Pauge.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radio Pauge, oncle Kinchon Microphone, dans le quartier Pauge, entouré de bonnes personnes. mes collègues Carly Kanyinda et Anne-Valérie, bonjour Carly.
Bonjour oncle Kinch.
Ah, bonjour Anne-Valérie.
Bonjour oncle Kinch.
Il fait pas froid là?
Non, ça va.
Il fait beau, hein, on est gâtés, hein, le temps est bien. Hein.
Oui, Scarbeck, voilà. C'est beau à Scarbeck.
Nous avons une invitée qui est assise juste à mes côtés. Elle, c'est Anne.
Oui, bonjour Anne.
Bonjour Anne. Anne, elle est partenaire du contrat de quartier Pauge. Elle présente un projet, je dirais, assez particulier. Je n'ai jamais vu un projet comme ça, à part là, maintenant, dans le cadre de ces contrats de quartier. Et en fait, c'est l'écrivain public. C'est ça, Anne?
Oui, donc c'est ça. Je représente l'ASBL, la Cité des Écrits, qui a démarré à Scarbeck il y a peu de temps. Mmh. Et effectivement, dans le cadre du contrat de quartier, on va ouvrir 3 permanences d'écrivains publics dans 3 lieux différents de Scarbeck.
Ok. Carly, tu connais l'écrivain public, tu connais
je connais le concept. Avec des pincettes, hein, que je vais dire, c'est en fait quelqu'un ou des personnes qui sont mis à la disposition du public pour écrire à leur place, par exemple des lettres administratives ou des demandes. Ou voire même peut-être corriger des demandes ou des procurations, des trucs comme ça, je pense.
Effectivement, c'est tout à fait ça.
Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai déjà entendu.
Ça participe à la compréhension de courriers ou à répondre à des courriers ou écrire une simple lettre, une demande, introduire une demande quelque part, remplir un formulaire, envoyer un mail aussi, parce qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup moins par la poste, mais on fonctionne beaucoup plus par Internet. Donc effectivement, nos écrivains publics se mettent à la disposition des personnes pour les aider à écrire ce qu'elles veulent écrire. C'est pas
donc,
nous qui...
En Kitsch, là, c'est la nouvelle dimension. Moi, je suis un vieux jeu.
Oui.
Il y a le mail, donc les nouvelles technologies.
Voilà.
Quand on pose la question aux gens, est-ce qu'un écrivain public peut intervenir par Internet ? Souvent, ils hésitent et le plus souvent, ils répondent non. Mais donc, oui, on fonctionne aussi aujourd'hui par Internet.
Anne-Valérie.
J'ai juste une question à Anne. Est-ce que c'est par rapport aux besoins au sein de la population ou
Alors c'est effectivement une des réalités de la population de Schaerbeek, c'est qu'il y a une partie des habitants qui ont des difficultés par rapport à l'écriture, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le parcours scolaire en français. Et donc effectivement, c'est pas évident de pouvoir s'adresser à une administration, d'avoir les bons termes, de savoir où adresser sa demande quand on n'a pas grandi ici.
Moi, je pense que il y a une petite note d'humour, hein. Carly, en parlant d'écrivain public, il pensait voir un monsieur sous un arbre, comme on voit en Afrique, avec sa machine mécanique.
mais non, pas du tout. J'ai pas pensé à ça. Mais alors là, que tu en parles, je vois ça. Moi, en Afrique, il existe une version.
Mais ça existe encore dans beaucoup de pays.
Mais non, j'avais déjà entendu parler de cette version-là, mais je ne savais pas qu'on était déjà dans la dimension électronique.
Le métier d'écrivain public n'est pas reconnu en Belgique. Il l'est dans d'autres pays, comme la France, par exemple. C'est un métier reconnu. Ouais. Par contre, c'est un des métiers les plus vieux du monde. Puisque quand on remonte un peu dans l'histoire, au temps où les personnes ne savaient pas tout écrire, il y avait le scribe qui était un personnage essentiel et principal dans la cité.
Oui.
Et donc, c'est aussi de là qu'est venu le nom « La cité des écrits ». C'est pour faire référence au scribe de l'époque.
Et moi, là, en pensant
à cet écrivain sous l'arbre.
En charriant un petit peu Carly, parce que moi, en voyant le dossier, moi, je c'est cette image qui est revenue, puisqu'en 2011, je suis allé en Afrique, et là, j'étais surpris, je me baladais, j'ai vu un monsieur sous un arbre. Donc, cette image, moi, je l'ai vécu. Le monsieur sous un arbre, sérieux, avec sa machine mécanique. Et les gens amenaient des trucs.
Ça existe dans beaucoup d'endroits. Et y a beaucoup de gens aussi à Bruxelles qui le font pour leurs proches, pour leur entourage. Donc, toutes les personnes qui écrivent convenablement ont déjà été sollicitées, je pense, par une connaissance ou l'autre pour aider à faire un courrier.
Oui. Anne, est-ce que, je m'excuse, oncle Kitsch, est-ce qu'il y a le public vient, il y a des gens
là, donc, on a ouvert une première permanence en septembre, ici au début du mois, à l'Espace Zèbre, donc qui se trouve au numéro 1 de la rue Camille Simons. Ça fait le coin avec l'avenue Voltaire. La permanence a lieu tous les mercredis matins de 9h30 à 12h30. Et on a eu quelques personnes. C'est pas encore le rush, mais les habitants ne sont pas encore au courant.
Au courant.
À partir du mois d'octobre, on va faire les permanences. Si je ne me trompe pas, ce sera le mardi matin à l'Espace Vogler. Et le lundi matin, à partir du mois de novembre, nous serons à l'Espace Kessels. Oh. Donc il y aura 3 écrivains publics différents, chacun dans une permanence différente, à des moments différents. Et on peut aussi nous contacter pour des personnes qui ne savent pas se déplacer. On peut aussi se déplacer à domicile ou par Internet.
À l'hémicycle, c'est où
Nous pouvons nous déplacer chez des personnes avec une équipe de ce qu'on appelle les écrivains publics volants.
Waouh, c'est encore innovant.
Ben voilà, Valérie, c'était justement ma question, celle de savoir si les 16 écrivains publics étaient mobiles.
Oui, non, mais voilà. On travaille en fait en collaboration avec le réseau des écrivains publics de Bruxelles, où là il y a encore il y a des permanences en fait d'écrivains publics qui s'ouvrent, qui sont déjà ouvertes, surtout Bruxelles. Donc si vous regardez sur le site www.écrivainpublic ou réseau d'écrivains publics, vous pouvez trouver toutes les permanences de Bruxelles. Les écrivains publics sont bénévoles et les services sont totalement gratuits pour les gens.
Et vous êtes organisé comment au niveau de cette fédération? Vous avez des réunions?
Le réseau, c'est une chose et notre ASBL en est une autre. Oui, mais on travaille en partenariat et la majorité de nos écrivains publics donc, qui travaillent pour l'ASBL font partie du réseau des écrivains publics de Bruxelles.
Pour revenir à votre boulot, à votre travail, moi je voulais savoir ça représente quoi en termes de masse de travail à faire. Est-ce que c'est quel genre de travaux que vous faites? C'est plus de lettres ou plus de choses administratives?
C'est essentiellement, les demandes sont essentiellement de type administratif, donc on a beaucoup de demandes de courriers de ce type-là, mais on fait aussi des courriers d'ordre privé, écrire à son frère, envoyer une carte pour la Saint-Valentin, ça nous arrive aussi. Le réseau des écrivains publics organise des actions chaque année, notamment le 14 février pour la Saint-Valentin. La dernière fois, ça s'est fait en collaboration avec le collectif Amoureux nos papiers, qui est donc en même temps qu'une sensibilisation au métier de l'écrivain public, c'était aussi une sensibilisation aux réglementations par rapport au mariage de Belges avec des sans-papiers, où ça devient vraiment contrôlé. De plus en plus. Autre type d'action que le réseau organise aussi, c'est par exemple à la Noël, on a proposé aux gens d'écrire des cartes postales pour leurs proches et en même temps d'écrire une seconde carte postale pour une personne SDF. Oui. On a fait ça en collaboration avec l'opération Thermos cette fois-ci. Et donc pour le jour du réveillon, toutes les cartes postales ont été distribuées à des sans-papiers pour leur souhaiter de bonnes fêtes.
Ok, Carly,
je voulais demander à Anne, mais comment vous faites pour... parce que tout à l'heure, on disait que les gens parfois ne sont pas informés, mais comment vous faites pour informer les gens?
Au niveau de l'association, donc on est relativement nouveau, donc effectivement, on profite ici des publications qui sont faites notamment via Renovas, mais on participe aussi, on a participé à une fête de quartier à la rue Camille Simons, on a participé à la fête sur le cinéma à la place Oufalis.
On a été ensemble.
On est là aujourd'hui, oui, on était ensemble. On est venu hier ici faire une permanence, on prépare un article pour le journal communal. On fait partie de la concertation locale de la commune, donc on est en contact avec toutes les autres, la majorité des autres associations présentes sur Scarbec. On fait partie aussi du conseil consultatif de cohésion sociale. Enfin voilà, on essaye de participer à plein de choses et du coup de diffuser notre action aussi auprès des partenaires.
Vous serez en contact avec des projets similaires ailleurs, en Belgique ou à Bruxelles, je
pense. En dehors des autres permanences écrivains publics, non, pas particulièrement. On va probablement développer une collaboration avec Scriptalinéa, qui organise des collectifs d'écrits. Donc ça, on voudrait pouvoir en démarrer un sur Scarbec aussi. Et alors, il faut savoir qu'on a deux axes de travail. Donc, effectivement, le principal, c'est celui des écrivains publics avec nos permanences. Mais on est aussi, pour la plupart, animateur d'ateliers d'écriture. Et donc, on espère pouvoir mettre en place, notamment prochainement, déjà à l'Espace Zeb, des ateliers d'écriture avec les habitants du quartier. Et on travaille aussi tout ce qui est récit de vie. Et là, on a une des animatrices chez nous qui voudrait vraiment pouvoir développer ça sur Scarbec. Et donc voilà, on a déjà quelques pistes et quelques idées qu'on souhaite aller proposer à des partenaires. Mais on vous en parlera quand on aura signé. Oui.
Vous n'avez jamais pensé, s'il vous plaît, à la solution qui serait, ça c'est mon point de vue, je ne suis pas professionnel dans la matière, qui serait la meilleure, par exemple, de réorienter ceux qui le veulent au cours d'alphabétisation, par
exemple.
Bien sûr,
ça fait partie d'ailleurs de nos fonctions, c'est-à-dire que tout écrivain public a une connaissance suffisamment étendue de ce qui se fait à Bruxelles pour pouvoir réorienter les personnes. Oh. Aussi aussi en fonction des courriers qu'ils nous demandent. Quand c'est des courriers de type administratif, on peut aussi parfois les conseiller ou les orienter vers un professionnel, puisque nous ne sommes ni assistants sociaux, ni psychologues, ni avocats. Et parfois, ça nécessite de pouvoir aller plus loin. Donc effectivement, ça fait partie de nos compétences et on a été formés aussi à ce type de choses. Quoi.
Merci.
Ok. Je ne sais pas si Anne-Valérie, tu as une question spécifique à...
Non, je pense que c'est... Anne a été assez claire.
J'ai beaucoup parlé.
Je trouve,
hein.
Je trouve que c'est un beau projet en tout.
Est-ce qu'il y a un agenda? Il y a un programme précis?
Le mieux, ce serait de donner le numéro de téléphone.
Voilà. Comment vous joindre, les coordonnées?
Parce que je ne le connais pas par cœur.
Ah, ok. Et il y a une page Facebook
qui est en cours d'élaboration, donc elle n'est pas encore faite, mais il y a un site Facebook, il y a un site Internet, pardon. Donc vous pouvez en tout cas trouver les informations sur lacitédesécrits.be ou alors téléphoner au 0474 618 514.
618 514.
Oui.
Pas oublié.
Ou envoyer un mail à info@lacitédesécrits.be.
Ok. Il y avait une petite idée qu'on s'était dit entre nous de lier de temps en temps nos activités. Ça,
mais oui, parce qu'on aurait voulu profiter de l'opportunité d'avoir un micro pour permettre aux personnes qui participeront à nos ateliers d'écriture de pouvoir lire leurs écrits s'ils en ont envie, bien sûr.
Tout à fait.
Parce que voilà, on trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir aussi partager ce que les gens écrivent. Et il y a souvent de très jolis textes qui ressortent des ateliers. Donc, et pourquoi pas des publications et tout et tout.
Voilà. D'ailleurs, le jeune,
on voit grand, hein,
le jeune qui a participé au journal TV de Bonnes Nouvelles, il est excellent celui-là.
Oui, excellent, excellent.
Vous avez encore ses traces ou...
Non, il avait promis de me rappeler, mais je crois qu'il a oublié.
Ok, merci.
D'ailleurs,
Anne,
si tu peux le relancer, c'est bien.
Ah oui, chouette. Merci Anne. Avant de partir, un petit jeu.
Merci à vous en tout cas.
Un petit jeu avant de partir.
Un petit jeu.
Un petit jeu, ça te dit?
Si c'est facile. Je gagne quoi?
Tu gagnes un nouveau passage à la radio.
Ouais. Il va falloir que je m'entraîne. Hein.
Dis-moi, Anne, comment tu vois ce quartier 10 ans plus tard?
Ah, moi, je rêve d'un quartier beaucoup plus vert, avec vraiment du partage et de la connaissance des personnes les uns avec les autres. C'est vraiment une des dynamiques, d'ailleurs, que j'ai retrouvées à l'Espace Zèbre. C'était notre premier contact dans le quartier. C'est pour ça qu'on a vraiment eu envie de développer des activités là-bas. Mmh. C'est que c'est vraiment de pouvoir mettre les habitants en lien, et notamment par l'échange de savoirs ou de compétences ou de services. Il y a par exemple un monsieur qui vient apprendre aux enfants à jouer aux échecs, une dame qui vient pour donner une aide bénévole à l'aide aux études et qui en contrepartie reçoit de l'aide pour autre chose de la part des enfants. Donc c'est vraiment un échange et aussi des échanges basés sur la rencontre, se voir pour manger ensemble, simplement échanger, discuter, rigoler, voilà, faire des choses mais aussi simplement se rencontrer.
Faire des choses ensemble.
Faire des choses ensemble. C'est pourquoi on est là. Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci à vous.
One Piece Studio.
Aujourd'hui, nous allons manger la sauce à la moamba, accompagnée d'une banane bien pilée qu'on appelle l'ituma. Une émission animée portée par celle que vous connaissez évidemment, Dada Stella. Bien, nous avons comme invité aujourd'hui Mademoiselle Marie, qui est notre cordon bleu et qui va nous présenter, nous dire comment on prépare la sauce à la moamba accompagnée d'une banane bien pilée. Marie.
Connaissez-vous la sauce à la moamba? Donc la moamba, avoir la moamba, ça vient de l'arachide. C'est de l'arachide qui est bien mixé. Bon, chez nous, on pile. Mais ici, en Europe, c'est plus mixé. Et ça donne une texture qui est très, très excellente et très agréable à goûter. Donc, elle peut accompagner plusieurs aliments.
Ah, mais ça donne déjà de l'appétit, ça. Dites, mais vous êtes sûr que vous êtes le faire? Comment vous avez appris à faire la sauce à la moamba? C'est pas votre maman, votre tante, par une école ou quoi? Dites-nous un peu.
Ben, quand on grandit, justement, dans l'environnement où il y a la maman, la tante et tout ça, on apprend automatiquement à le faire. Vous savez, chez nous, quand on est petite, on voit la maman faire et on est directement invité à participer aux tâches ménagères, hein, en tant que jeune fille. Et c'est souvent un plaisir, hein. C'est même pas une obligation, mais c'est juste un plaisir de vouloir faire à manger, de voir les autres goûter à ces bonnes sauces, à cette bonne nourriture, à ce bon repas qu'on partage ensemble avec joie. Sous la chaleur, ça fait un grand plaisir.
Et bien là, on va y aller. Je commence déjà à saliver là. Ça, c'est là, c'est Resto Poche. Ça donne l'appétit. Et là, et bien on va passer alors à la pratique. Nous avons tout. Il y a la banane, et là, il y a la moimbe. Il y a quoi? Ah, mais je vois là les oignons, la tomate, et bien les persil et tout ça. Et la pâte à la moimbe. Il paraît qu'il y a deux sortes de pâtes de moimbe. Il y a aussi une sauce à la moimbe à partir du jus, enfin du jus de noix de palme. Il paraît qu'il y en a deux.
Oui, je pense bien qu'il doit en avoir, parce que ça dépend un peu des pays et des endroits où c'est fabriqué. Hein, parce que chacun rajoute toujours sa petite touche personnelle.
Hein. Eh ben, approchez-vous, car Marie va maintenant vous dire et vous raconter comment elle procède pour faire la sauce à la moimbe accompagnée d'une banane bien pilée venue du Nord. Merci.
Voilà.
Ça, c'est Marie. Quand elle veut faire la cuisine, elle commence par rire. Mais ça donne déjà l'appétit, votre rire, Marie. Vous voulez... Oui, mais moi aussi, j'essaie un peu faire la sauce. On peut le faire, nous deux. Hein. Alors aujourd'hui, Marie et moi, on va vous présenter la sauce à la moimbe. Eh bien, pour faire la sauce à la moimbe, Marie, tu m'accompagnes.
Oui.
Voilà. Eh bien... Évidemment, ça dépend. Cette sauce-là, on va la mettre dans quoi? Est-ce que c'est dans du poulet? C'est dans de la viande boucanée? De poisson fumé, salé? Même dans les feuilles de manioc, hein, dans les légumes, on peut mettre la sauce.
Légumes,
un peu de moimbe.
Les amarantes, pour les bakongo.
Voilà, mais là, j'ai vu que Marie a prévu quand même, évidemment, le poulet. Waouh, poulet fumé. Eh bien, Marie, vas-y.
Donc, nous allons déjà affrêter notre poulet, le découper, découper des jolis morceaux. Parce que quand on prépare, on doit quand même tenir compte de l'esthétique. Hein. Donc, chez nous, parfois, il y a ceux qui mangent vraiment avec les yeux. Donc, il faut que le coupé soit vraiment bien, bien découpé par rapport aux différentes portions.
Marie, elle parle et en même temps, elle coupe. Et alors là, elle est... Comprenez qu'elle puisse à un moment donné s'éclater. Ou alors vous aurez des silences parce qu'elle est concentrée et doit couper les beaux morceaux. Hein. Elle doit nettoyer et parfois ça. On est tellement concentré qu'on oublie de parler. Ça, c'est Marie. Mais continue, nous, on est patient, Marie. Continue. Tu peux rire, nous, on attend. Les autres ont faim, hein, parce que nous, on doit manger après, n'est-ce pas? Et ça, c'est Resto Poche. L'émission de tout. On y voit tout dans notre émission. On rigole, on éclate. Marie n'arrive pas. Oui, vous écoutez bien Resto Poche. Et à la cabine technique, comme vous le savez, évidemment, oncle Kinch, il rigole aussi avec nous. D'ailleurs, il a faim. Kinch, tu as faim? Attends, elle va finir. Attendez qu'elle finisse. Allez, continue, ma chérie. On est là pour ça. On attend.
Donc voilà, on est en train de couper. Maintenant qu'on a fini notre sauce, on va rajouter de la moimbe pour qu'il puisse y avoir une bonne texture. Parce que ça doit être quand même assez lourd, assez bien consistant pour bien accompagner les différents plats.
Non, je peux aider. Hein. Pendant que vous faites ça, je peux faire quoi? Moi, je coupe les oignons, la tomate, céleri, poireaux. Oh là là, on va bien se régaler aujourd'hui. Mais je peux éplucher la banane entre-temps. Ok, merci Marie. Eh bien, nous allons mettre un peu de musique. Il est temps que Marie, qu'on termine de découper et de découper. Et on va écouter la chanson de Abeti Masekini, Likayabu. Sakadu, Nazaya Kwa Don Sakadu, Nazaya Kwa Don Sakadu.